L'heure de pointe, en partenariat avec le groupe La Dépêche, Gaëtan Rohr, Philippe Subercaz.
Notre invité cette semaine, c'est le nouveau DDSP. Alors peut-être que les gens ne comprendront pas qu'est-ce que c'est qu'un DDSP, c'est le directeur départemental de la sécurité publique. Merci à vous, Vincent Gore, d'avoir accepté cette invitation avec la rédaction donc, du groupe La Dépêche, avec Gaëtan Rohr. Merci Gaëtan.
Bonjour.
Et bien sûr, Radio Présence. Merci d'être venu. Vous avez pris vos fonctions il n'y a pas très longtemps. Vous êtes arrivé en juillet, mais vous avez pris vos fonctions qu'en septembre.
Bonjour à tous, tout à fait. J'ai été affecté le 3 juillet dans les Hautes-Pyrénées et j'ai été installé officiellement
le 13 septembre.
Tout à fait.
Voilà. Vous avez 41 ans et vous êtes marié, vous êtes papa de 3 enfants. Merci d'avoir accepté, je disais, cette invitation. On va parler un peu de votre métier un peu particulier. Vous êtes commissaire.
Oui.
Vous avez en charge aujourd'hui des deux commissariats, pour faire simple, le commissariat de Tarbes et le commissariat de Lourdes, ce qu'on appelle la zone police.
Tout à fait.
Quelle est la différence entre la zone police et la gendarmerie? Vous avez, bien sûr, la gendarmerie, elle s'occupe plus du rural.
C'est bien ça. La police est effectivement en charge des zones urbaines, la gendarmerie des zones plus rurales. Pour schématiser, on dit souvent que la police gère des populations, notamment une densité de population, alors que la gendarmerie est davantage ancrée sur les territoires. Voilà. Donc ils ont des territoires plus vastes, moins densément peuplés, et nous des territoires plus resserrés, mais avec une densité urbaine plus marquée.
Il y a quelque temps, la police nationale était sous l'égide donc, du ministère de l'Intérieur, avant les gendarmes sur l'armée. Aujourd'hui, vous travaillez avec la même direction.
Alors oui, on est tous sous l'égide du ministère de l'Intérieur, tout à fait.
Oh, oui. Nous allons parler des enjeux. Vous arrivez, vous venez de Paris, de la Seine-Saint-Denis, donc vous avez vécu, vous me disiez que vous aviez vécu dans le commandement lors des attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo. Vous étiez en première ligne.
Oui, c'est vrai. Je suis commissaire depuis 13 ans et j'ai vécu un certain nombre d'événements qui ont marqué effectivement l'actualité en région parisienne. J'ai occupé des postes en circonscription, puis des postes en direction. Et c'est effectivement à cette occasion-là que j'ai pu participer à certains dispositifs à l'occasion des attentats, tout à fait.
Donc vous arrivez dans un département qui, on en parlera tout à l'heure, la particularité d'avoir Lourdes au lieu emblématique donc, pour la chrétienté, le catholicisme. C'est une ville un peu à part qui doit avoir pour vous peut-être une attention particulière.
Effectivement, Lourdes, c'est une ville mondialement connue. Hein, un tas de pèlerins viennent chaque année s'y recueillir. Donc c'est une priorité pour nous. Il nous appartient de sécuriser effectivement ces arrivées. Entre 25 000, 30 000 pèlerins sur chacun des pèlerinages. Donc c'est un enjeu majeur pour nous. Et c'est aussi l'image de la France qui est véhiculée à travers ce pèlerinage à Lourdes. Donc c'est pour nous une priorité, bien sûr.
On va parler avec Gaëtan un peu. Bah, vous arrivez de la Seine-Saint-Denis avec la réalité de ces départements au niveau de Paris. Vous arrivez dans un département plutôt rural. Vous en avez fait le choix d'ailleurs. C'est un choix familial, vous m'aviez dit, parce que lorsqu'on est muté, on amène aussi toute sa famille. Donc il faut que ça soit aussi un choix qui soit accepté par la famille. Hein. C'est pas évident aussi.
Tout à fait. C'était très important pour moi. Effectivement, c'est pas que le commissaire qui mute, c'est toute sa famille. Et c'est très important qu'il y ait effectivement consensus là-dessus. Donc effectivement, c'est ma femme et mes 3 enfants qui ont également accepté de venir dans l'autre Pyrénées. Ah, oui.
Dites que vous avez eu un coup de cœur pour le département.
C'est vrai. Je dois vous avouer que moi qui fais du cyclisme depuis longtemps, j'ai tout de suite été charmé par les montagnes. Des Pyrénées, c'est un département magnifique, très différent évidemment de la région parisienne que nous connaissions, et évidemment que ça ajoute encore au plaisir d'occuper ce poste.
Est-ce que vous qui êtes en fonction, ou c'est vrai que lorsqu'on appelle le 17 ou la police, c'est jamais pour savoir si vous allez bien, c'est toujours des problèmes ou vous êtes vraiment dans le mal, enfin, chaque fois qu'on vous appelle, c'est pour vous appeler au secours, vous rentrez dans des drames absolument familiaux, enfin, est-ce que ça fait du bien aussi de pouvoir prendre le vélo et en quelques minutes se retrouver un peu dans la nature et se vider? Est-ce que c'est un équilibre?
C'est indispensable d'être en forme physiquement, d'être opérationnel, et puis effectivement d'avoir une soupape comme ça pour décompresser, pour se ressourcer, et il n'y a rien de mieux que la nature pour ça.
Et le vélo ?
Et le vélo, oui.
On va parler un peu de la réalité hein, de ce département. Vous le découvrez depuis juillet, donc on ne va pas non plus rentrer trop dans les dossiers parce qu'on vous laisse aussi le temps de les découvrir. Vous étiez à Paris, vous arrivez ici. Est-ce que quelque part, peut-être à des niveaux inférieurs, c'est quand même les mêmes problèmes ?
Alors, même problème, oui et non. Les gens ici, comme évidemment en région parisienne, ont de fortes attentes au niveau de la sécurité. Et c'est bien normal, c'est notre métier. On est là pour ça, on est un service public. On est là pour écouter la population et répondre à ses attentes. Donc ça, effectivement, ça a été ma priorité quand je suis arrivé. C'est de prendre contact immédiatement avec l'ensemble des partenaires, des élus, des maires, pour faire un diagnostic de la situation, comprendre ce qui se passe et pouvoir mettre en place le dispositif policier le plus adapté possible.
Alors vous avez eu des expériences notamment en région parisienne, Philippe l'a mentionné, en Seine-Saint-Denis, à Paris, des postes où vous avez été chef de circonscription. Donc vous dites que ça vous a donné une vision globale un peu des problématiques qu'on peut rencontrer.
Tout à fait. En région parisienne, c'est un mini laboratoire. Hein. Vous y rencontrez effectivement beaucoup de délinquances différentes, des enjeux souvent très forts, des événements d'envergure nationale. Et effectivement, ça a contribué à ma formation, à ma maîtrise technique des dispositifs policiers. Et c'est fort de cette expérience et de ces connaissances qu'aujourd'hui, je me présente comme directeur départemental avec effectivement des connaissances à faire partager et des choses à mettre en place, bien sûr.
Vous dites qu'il faut une police visible.
C'est indispensable. La police, elle est là, elle n'est là que pour la population. Son action doit être comprise par la population. Elle doit être accessible. Elle doit entendre ce que la population a à lui dire. Et c'est quelque chose qu'on doit développer. On doit aller à la rencontre des gens, des commerçants, écouter leurs inquiétudes, leurs peurs, leur expliquer aussi ce que nous on fait, parce que parfois c'est pas forcément toujours visible, et je le comprends. Et effectivement, contribuer comme ça à rassurer les gens.
Donc ça veut dire plus de patrouilles, par exemple, place de l'Arsenal, place de Verdun ou même à Lourdes.
Ça veut dire effectivement cibler nos patrouilles sur les secteurs où les enjeux sont les plus forts. Ça veut dire s'adapter en permanence. Ça veut dire aller à la rencontre des commerçants et avoir un dispositif adapté. Ça peut passer par tout l'arsenal des mesures mises à notre disposition, et notamment l'arme contraventionnelle, l'alcoolisation excessive, les excès de vitesse, les rodéos, c'est pas une fatalité. La verbalisation, moi j'y crois beaucoup, parce que c'est très dissuasif. C'est une action de répression qui est immédiate, qui est visible du contrevenant, et qui dissuade évidemment à réitérer.
Lorsque on voit des policiers sur la route, par exemple, faire des contrôles de vitesse avec les radars ou des contrôles alcoolémie, qui le décide ? C'est vous ? C'est l'État ? Comment ça se passe lorsqu'on voit des policiers qui ont comme pour mission aujourd'hui d'être de telle heure à telle heure à tel endroit? Alors, pour la vitesse, pour l'alcool, pour...
Moi, mon rôle en tant que directeur départemental, c'est de commander les équipages de police mis à ma disposition. Concrètement, ça veut dire quoi commander ? Ça veut dire justement adapter le dispositif policier à l'évolution de la délinquance, et ce, en temps réel. Voilà. Il n'est pas opportun, il n'est pas efficace de faire du saupoudrage et d'être un peu partout et nulle part à la fois. Donc effectivement, c'est moi qui vais donner des directives d'être présent sur tel secteur, sur tels horaires, et d'agir de telle manière pour arriver au résultat escompté. Voilà. Et mon rôle derrière, c'est de contrôler que l'action qui a été mise en place a atteint son objectif ou non. Voilà. Donc effectivement, il y a des contrôles radars qui sont organisés tous les vendredis soirs sur des secteurs différents. et je l'assume. Et on veut endiguer ces phénomènes de vitesse qui met en danger tout le monde en ayant recours, je le disais, à la verbalisation, mais pas que, aussi à la rétention du permis de conduire, à l'immobilisation du véhicule. Bref, toutes ces mesures-là qui sont permises par la loi et qui nous permettent d'arriver à plus de sécurité.
Est-ce que vous avez les moyens suffisants pour mener à bien toutes ces missions ?
Vous demandez à un directeur s'il voudrait plus d'effectifs. Aucun directeur ne vous dira qu'il en a trop et qu'il en veut surtout pas d'autres. Évidemment. Néanmoins, mon rôle aussi, c'est d'utiliser de manière la plus efficace les moyens qui sont mis à ma disposition. Voilà, donc... les fonctionnaires de police sont des gens payés par l'État, donc par les impôts, et mon rôle de décideur public, c'est justement d'en faire la meilleure utilisation. Donc c'est dans cette optique-là que je m'inscris.
Vous êtes capable de pouvoir comme ça bouleverser sur une opération bien, bien précise les agendas de vos policiers ? Ou c'est un petit peu compliqué lorsqu'ils sont avec déjà un temps bien, bien déterminé dans le temps, quoi.
Bien sûr, la force de la police, c'est bien connu, c'est la réactivité, c'est de s'adapter. Donc, effectivement, il y a des consignes effectivement hebdomadaires, mais on réagit au jour le jour, en fonction de l'actualité et en fonction des objectifs, bien sûr.
Vous avez combien d'hommes sous vos ordres ?
Alors, on a 230 fonctionnaires environ sur tout le département. Ça comprend Tarbes et Lourdes. C'est un chiffre évidemment global qui comprend à la fois les hommes qui sont employés sur la voie publique, mais également ceux derrière qui font des enquêtes. Parce qu'une fois qu'on a interpellé quelqu'un, la procédure commence. Donc, le temps judiciaire commence. Donc, le placement en garde à vue, les auditions, les relations avec le parquet. Bref, tout le temps des enquêtes. Qui prend beaucoup de temps, doit être pris en compte. Et puis, comme vous le savez, on est présent 24 heures sur 24 sous un système de cycle horaire, hein, donc ce qui est assez gourmand en effectif. Mais le commissariat ne ferme jamais. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
L'accueil au public, c'est quelque chose aussi que vous souhaitez... vous avez une attention particulière sur l'accueil public parce qu'il y a la charte marienne, mais des fois, bon, c'est vrai qu'on peut avoir des accueils plus ou moins sympathiques.
C'est essentiel. L'accueil, c'est la première image qu'on a d'un commissariat quand on rentre. Premier sentiment, c'est le policier qu'on a en face de soi. Donc, effectivement, c'est une priorité. Cet accueil doit favoriser évidemment le dépôt de plainte, la libération de la parole. C'est notre raison d'être, d'accueillir les victimes. Donc effectivement, c'est un enjeu prioritaire.
Il existe donc la police nationale que vous représentez et il existe en parallèle depuis quelques années et qui est d'ailleurs en forte progression, la police municipale. Quel regard vous portez sur la police municipale et aujourd'hui, quelle est, avec la police nationale et la police municipale de Tarbes et de Lourdes et d'autres aussi dans les villages, certains ont un garde champêtre ou un policier municipal, quelle est aujourd'hui, comment vous travaillez ensemble ?
Alors la police municipale, c'est une police qui est créée par le maire. Rémunéré par la commune et qui travaille sous les ordres du maire. Donc ce ne sont pas des agents qui sont sous mon autorité. C'est deux choses différentes. Il y en a dans certaines communes, il n'y en a pas dans d'autres. C'est une force très complémentaire de la nôtre et on travaille main dans la main avec eux. On a d'excellentes relations avec les polices municipales. On se répartit les missions. Ils participent également, évidemment, à la visibilité des forces de police sur le territoire. Donc, aujourd'hui, c'est une force tout à fait complémentaire. Et on occupe donc conjointement la voie publique, chacun pour autant dans ses missions.
Quel est le moral de vos troupes ? On a beaucoup parlé du malaise policier tous ces derniers temps.
Il est très bon. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent que la population attend beaucoup d'eux. Ce sont beaucoup de fonctionnaires qui ont grandi et qui vivent évidemment dans les Hautes-Pyrénées. Donc ce secteur, cette région pour eux a beaucoup de sens. Hein. On n'est pas du tout sur la région parisienne où vous avez des jeunes fonctionnaires qui sont un petit peu déracinés. Là, non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont solidement ancrés, qui ont leur famille, qui ont leurs enfants scolarisés, et qui sont là depuis un certain temps, qui s'inscrivent dans la durée. Donc, ils ont une vision assez fine de ce que la population attend d'eux, du service qui doit être rendu. Et puis, ils ont une relation, évidemment, un lien qui est très dense, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont grandi à l'école avec celui maintenant qui est chef d'entreprise, celui qui dirige un commerce, celui qui occupe d'autres fonctions, et ça facilite évidemment beaucoup les choses.
Est-ce qu'il y a eu des arrêts maladie suite à la vague qu'il y a eu partout en France?
Non, pas directement lié à cette vague-là. J'ai la chance d'avoir des agents motivés, comme je vous le disais, impliqués. Il faut rendre hommage à leur travail. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. On ne se rend pas compte des risques qu'ils prennent sur la voie publique pour leur propre sécurité, pour leur propre intégrité physique, pour interpeller des délinquants, des gens qui ont commis des infractions. Ce sont aussi des gens qui sont chargés de famille et qui n'hésitent pas à se mettre en danger dans bien des cas. Donc il faut se rendre compte de ça. Bien souvent, on n'en a pas assez conscience.
Quelle vision vous avez, vous, en tant que policier aussi, voilà, on applaudit les policiers en 2016 avec les attentats. Aujourd'hui, on les hue, on leur tape dessus. Enfin, il y a des images absolument incroyables de policiers qui sont carrément attaqués. On ne prend plus de gants pour parler à un policier. Il y a quelques années, lorsqu'un policier nous parlait, on avait, voilà, on a presque un peu peur. Voilà, c'était, ça représentait quand même l'autorité. Aujourd'hui, on vous apostrophe comme ça, sans y mettre les formes. Quel regard vous portez à ça, un métier quand même hyper difficile, parce que comme on le disait tout à l'heure, vous êtes quand même dans la misère humaine. Vous gérez des cas avec des fois des jolies histoires, hein, parce que vous êtes là aussi pour porter secours. Donc, mais on parle de vous, et puis les réseaux sociaux sont là aussi qui peuvent. Voilà, je sais que vous intervenez, il y a tout le monde va prendre son téléphone et vous filmer. Donc vous avez aussi ce regard. Quel regard vous portez de cette population qui, un moment, vous aime, un moment, vous déteste, et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, carrément, une manifestation qui est organisée par des politiques pour presque une manifestation qu'on pourrait dire, entre parenthèses, anti-flic.
Alors, déjà, de quelle population parle-t-on ? Moi, la population que je rencontre, ce sont des gens qui ne cessent de me dire en réunion publique ou par courrier, « Monsieur le commissaire, je souhaite voir plus de police. Monsieur le commissaire, quand est-ce que il y a plus de patrouilles dans ma rue ?» Les gens sont en demande de police. Ils sont en demande de voir du bleu, comme on dit. Et ça, c'est la majorité silencieuse. Ce sont les gens qui ne manifestent pas. Ce sont les gens qu'on ne voit pas. Et c'est pourtant, ils sont bien là. Voilà. Il ne faut pas les oublier parce que ces gens-là aiment la police et sont rassurés à chaque fois qu'ils voient un policier. Voilà. Après, vous évoquez ceux minoritaires, effectivement, qui n'aiment pas la police. Mais pour être tout à fait franc avec vous, j'assume d'être haï par des délinquants. J'assume d'être ne pas aimé par ceux qu'on interpelle et qu'on présente à la justice et qui font l'objet parfois de mesures de détention. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis là pour faire respecter la loi, je suis là pour faire respecter l'ordre. Je le disais dans une interview récente, la police est un monopole de la force légitime et j'ai aucun problème avec ça. Ça ne signifie pas évidemment que la police peut tout faire. Vous évoquez le fait qu'on soit filmé. Bien sûr, la police doit être exemplaire, plus qu'aucun autre corps. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal. C'est le pendant, justement, de ce monopole de la force légitime, c'est d'être exemplaire. Donc c'est normal que la police soit contrôlée. C'est normal que quand elle fait des erreurs, la police soit sanctionnée. On est d'ailleurs le corps de la fonction publique le plus sanctionné en France. C'est le pendant de ces prérogatives-là. Et rien ne me choque là-dessus. Effectivement, le travail est de plus en plus difficile parce que la société est de plus en plus violente, parce que les gens, pour un certain nombre d'entre eux, n'ont plus de limites et vont effectivement jusqu'à l'attaque physique. On n'a jamais compté autant de policiers blessés en intervention. Et effectivement, c'est malheureux. On doit se protéger face à ça, on doit s'adapter, mais on ne doit surtout pas baisser les bras. Au contraire, on doit redoubler de motivation et de volonté.
Les caméras piétons, ça peut être une aide justement face à ces...
Complètement, ça s'inscrit dans cette optique-là. On n'a rien à cacher. On a tellement rien à cacher qu'on va filmer nous-mêmes ce qu'on fait. Voilà. Et ces images-là, elles sont enregistrées, personne n'y a accès, sauf l'autorité judiciaire. Voilà. Donc quand effectivement il y a un doute ou une contestation sur la manière dont une intervention s'est développée, on met à disposition les images qui permettent de faire la lumière. Voilà. On agit en toute transparence.
Il y a, vous l'avez dit, peut-être que la population, on le disait, certaines populations, et d'ailleurs vous n'en cachez pas que ça vous déteste, ça ne vous dérange pas puisque c'est des délinquants, mais il y a un vrai mal-être aussi dans la police nationale avec un taux de suicide absolument incroyable et souvent même avec leurs propres armes de service. C'est quelque chose aussi qui vous interpelle aujourd'hui, ce mal-être dans la police et peut-être qu'un jour ou l'autre, de moins en moins de personnes qui voudront venir faire cette formation et devenir policier.
Ça fait plus que m'interpeller, ça m'inquiète, évidemment. Évidemment, aussi dans le cadre de mon rôle de directeur, il me revient de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour agir en prévention de ces suicides, de repérer les gens qui n'iraient pas bien et pouvoir répondre à cette détresse. Effectivement, il peut y avoir parfois des interrogations sur le sens de ce qu'on fait, confronté, vous le disiez, à cette misère. Aujourd'hui, c'est pas facile de porter un uniforme. On est pour beaucoup une cible. On est parfois même attaqué en dehors du service. Mes fonctionnaires doivent faire attention quand ils rentrent chez eux, de ne pas être suivis. Parfois, ils sont invectivés lorsqu'ils sont le samedi au supermarché avec leurs enfants. Donc oui, c'est difficile aujourd'hui d'être policier. Et ils n'en ont que d'autant plus de mérite. Mais la grandeur de la mission demeure. Y a pas plus digne que de vouer sa vie à aider les autres, à essayer de faire en sorte que les plus démunis puissent vivre en sécurité. C'est très noble comme mission.
Je vous propose de marquer une pause dans cette émission. Merci. Je rappelle que notre invité, c'est vous, Vincent Gore. Vous êtes le nouveau directeur départemental de la sécurité publique. Alors, vous me disiez que vous étiez commissaire. C'est votre grade et votre fonction, c'est aujourd'hui directeur. Donc, vous commandez les forces de police dans ce département du commissariat de Tarbes et du commissariat de Lourdes. On fait une pause et je vous avais demandé la pause musicale. On l'a fait choisir par notre invité. Et alors là, vous avez fait quelque chose moi, qui me fait plaisir. Jean-Jacques Goldman, pas toi. On écoute cette chanson et on se retrouve juste après.
L'heure de pointe, en partenariat avec le groupe La Dépêche, Gaëtan Rohr, Philippe Subercaz.
Je pense à toi.
Pointe, en partenariat avec le groupe La Dépêche. Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.
Voilà, après cette excellente pause musicale, merci d'avoir choisi Jean-Jacques Goldman avec Patois. Une chanson, je pense que vous devez apprécier et aimer. Elle doit avoir sûrement une histoire, mais ça reste dans votre jardin secret. Merci Vincent Gore, vous êtes le nouveau directeur départemental de la sécurité publique. Vous êtes le commissaire de police. Vous avez en charge donc le commissariat de Tarbes et de Lourdes. On va parler de dossiers peut-être plus précis pour les auditeurs qui nous écoutent, au moins dans ce département des Hautes-Pyrénées. Il y a peut-être des lieux emblématiques où il se passe des choses. Il y a eu des morts. Des meurtres du côté de l'Arsenal, le quartier de l'Arsenal, sur Tarbes. La place de Verdun aussi est un petit peu compliquée. Et puis, on parlera aussi également de Lourdes, avec encore autre chose assez différent, puisque là, vous devez gérer des flux qui arrivent du monde entier et avec des pèlerinages emblématiques comme le pèlerinage militaire, le national du 15 août et le rosaire qui va arriver très prochainement. Parlons d'abord du quartier de l'Arsenal. Voilà une idée quand même qui était originale, une friche industrielle qui s'est transformée en lieu de vie avec des bars, des discothèques, cinéma, restaurants. Bon, voilà, qui dit lieu de vie, lieu d'amusement, dit alcool et souvent malheureusement qui en fin de journée tourne mal et donc c'est devenu quelque part un quartier qui peut inquiéter les parents.
C'est un quartier neuf, vous l'avez dit, rénovation d'une friche industrielle. C'est un beau quartier,
oui.
Où il fait bon vivre. Et effectivement, quelques individus se croient autorisés à franchir les bornes, notamment en fin de semaine, avec une alcoolisation excessive. Il est hors de question que ça perdure. Je tiens à le dire, ils trouveront à chaque fois des policiers sur leur route, parce que des instructions ont été données et on les verbalisera, on les interpellera et il est hors de question qu'on laisse faire des choses pareilles.
Donc des choses, vous allez en tant que nouveau directeur prendre les choses en main.
Ça a déjà été fait. Ça passe aussi par le partenariat avec les responsables des boîtes de nuit, avec lesquels on est en dialogue constant. Mais cette alcoolisation excessive, elle est pas tolérable. Donc des contrôles sont organisés et ils perdureront, bien sûr.
Alors vous parlez de verbalisation. Est-ce qu'on peut être concret en termes de sanctions? Une amende pour état d'ébriété sur la voie publique, c'est quel montant?
C'est 135 euros. Vous savez que il y a différentes catégories de contraventions en fonction de la l'infraction. Pour un excès de vitesse, ça dépend effectivement de la vitesse excessive. Mais le prix peut aussi varier en fonction de la majoration, de la minoration de l'amende. Bref, tout ça répond à des règles très précises. Mais la verbalisation fait partie de l'arsenal de sanctions qui est à notre disposition. Et je compte bien m'en servir. Donc c'est une sanction qui est immédiate, qui est visible. Il n'y a pas de convocation devant un tribunal, parfois des semaines ou des mois après. C'est immédiat. Et puis on touche au portefeuille, donc ça peut être très dissuasif, bien sûr.
Un autre endroit sur Tarbes, là on est plus sur autre chose, sur une délinquance un peu étonnante, où on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, par exemple de personnes qui sortaient avec des machettes, qui avaient des machettes dans le coffre, et en plein jour, là il n'y a pas un effet d'alcoolisation, place de Verdun, où en plus c'est un endroit aussi de vie, et un hub pour les transports scolaires ou le transport de personnes, puisque c'est vraiment le point central à Tarbes. Place de Verdun qui pose aussi sur Tarbes des problèmes.
La place de Verdun, c'est vraiment un lieu de passage par excellence, où se côtoient effectivement des enfants, des adolescents qui vont prendre le bus, des gens qui vont fréquenter les bars et restaurants qui s'y trouvent. Et puis effectivement, c'est un nombre d'individus plus marginaux qui ont tendance à y traîner. Il faut bien distinguer ce qui relève des services sociaux de ce qui relève de la loi pénale. C'est évidemment deux choses différentes. Moi, je suis là pour sanctionner, pour contrôler les gens qui sont auteurs d'infractions. Et là-dessus, on y est très vigilant. Ça passe aussi, comme je le disais, par une, une présence visible de la police sur, ce, sur la place de Verdun. J'ai demandé à ce qu'on on augmente cette, cette visibilité parce que je pense que ça peut contribuer à rassurer les gens qui y vivent et qui y passent de voir la police présente, bien sûr.
On a vu donc ces deux endroits sur, sur la, la ville de Tarbes. La ville de Lourdes, peut-être plus particulière, avec peut-être un petit peu moins de délinquance, mais avec des enjeux, on l'a dit au début de cette émission, hein, des enjeux majeurs, comme vous l'avez dit, hein, c'est, ça représente la France. Et si on touchait à Lourdes, ça, en quelques minutes, ça ferait le tour du monde. Vous avez cette responsabilité-là, avec des pèlerinages emblématiques, comme le pèlerinage militaire international, où là, toutes les armées presque du monde sont là, quelques jours concentrées sur une commune. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer ou qui vous avez toujours un petit peu quand même la peur qu'il se passe quelque chose.
La peur n'exclut pas le danger, comme on dit. Donc il faut bien comprendre que il y a une grande préparation dans tout ça. Voilà, que on dirait on a une grande expérience de ces pèlerinages là, que notre service de sécurité il est remis en question chaque année et nous, on ne connaît pas l'habitude, la routine. À chaque fois, on doit se questionner, se renouveler pour faire en sorte que le dispositif corresponde aux nouvelles menaces potentielles et qu'on ait à chaque fois qu'on gagne en efficacité. Donc, c'est ce challenge-là qu'on a de se renouveler, de s'adapter en permanence pour pallier à ces menaces-là, bien sûr.
En 2016, l'attentat de Nice avait mis en avant qu'une arme pouvait être tout simplement un véhicule, hein, puisqu'un véhicule est arrivé sur, sur la voie publique et a écrasé et a tué plein de personnes. Quelques temps après, il y a eu le meurtre du père Mel, hein, dans son église. Et là, bien sûr, un point d'attention a été sur la ville de Lourdes. Et donc, à l'époque, la préfète, hein, Madame Lagarde, qui était en place, a déployé des moyens. L'État a déployé des moyens. 1 million d'euros sur la ville de Lourdes avec le déploiement de la vidéoprotection et les bornes pour éviter à certaines heures la circulation de véhicules. Et puis, côté sanctuaire aussi, 1 million d'euros sur la protection des abords du sanctuaire et la vidéoprotection. Vous travaillez sûrement, bien sûr, en étroite collaboration avec les services donc, de la ville de Lourdes, de la police municipale et aussi les services de sécurité du sanctuaire.
Bien sûr, c'est un partenaire très important. On travaille constamment ensemble. Les installations, les équipements qui ont été mis en place sont d'une redoutable efficacité et je me réjouis de ces installations-là. Vous savez, la sécurité, on dit souvent que c'est une chaîne, hein. Chacun a sa place, chaque maillon est interdépendant des autres. Et seul, on ne fait rien. Donc, cette co-animation de sécurité avec la mairie, avec le sanctuaire, elle est très importante parce que ça nous permet d'aller tous dans le même sens, d'avoir une coordination parfaite et d'avoir ainsi un dispositif le plus solide possible.
La vidéoprotection, ça peut être étonnant, c'est à la charge de la commune. C'est-à-dire que les centres de supervision urbaine, la plupart des caméras sont pilotées par des policiers municipaux donc pour la ville de Tarbes et des policiers municipaux pour la ville de Lourdes. Vous avez des reports d'images au commissariat, mais la gestion, on va dire, globale et l'investissement sont à la charge des communes. C'est un peu étonnant.
C'est vrai, c'est vrai. Là encore, j'en parlais pour la police municipale, la vidéoprotection, c'est aussi un choix du maire, de la municipalité, d'installer des caméras. Alors vous disiez, c'est financé par la mairie, c'est vrai. Sachez quand même qu'il y a des fonds publics, des subventions qui peuvent être allouées.
Le FIPD, par exemple.
Bien sûr, du FIPD. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. C'est un outil très efficace, évidemment. Je sais évidemment toutes les discussions qu'il peut y avoir sur l'efficacité de la vidéoprotection. Alors, il est évident qu'une caméra n'a jamais arrêté personne, c'est évident. Mais elle permet d'avoir un œil sur la voie publique en permanence. Voilà. La caméra, c'est un prolongement de l'œil humain. Voilà. Une caméra permet d'être orientée, de zoomer sur des points particuliers, et ainsi d'avoir une vision beaucoup plus claire du terrain avant une intervention. Par exemple, on va pouvoir être en mesure de lire une plaque d'immatriculation. On va pouvoir être en mesure de zoomer sur l'objet que tient tel individu. Est-ce qu'il tient son portefeuille ou est-ce qu'il tient un couteau ? Ça change tout. Voilà. Ouais. Et pour le policier, évidemment, ce ne sera pas le même type d'intervention s'il a son portefeuille dans la main ou s'il a un couteau. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très efficace et c'est devenu aujourd'hui quasiment indispensable.
La vidéoprotection a été à une époque décriée, mais on fait vraiment appel à elle souvent quand il y a des enquêtes.
Oui, mais pas seulement. Lors d'une enquête, bien sûr, mais aussi sur tous les dispositifs de voie publique. Vous l'avez évoqué au sanctuaire. Il y a beaucoup de caméras au sanctuaire. Et là aussi, elles sont de plus en plus performantes. Et ça permet, là encore, de contrôler, de surveiller, d'assurer la sécurité des pèlerins, s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement de foule, qu'il n'y ait pas d'individus suspects. C'est très important. Oui.
La ville de Lourdes va déployer de nouvelles caméras. Le choix de ces nouveaux emplacements, ils sont faits en collaboration aussi avec les forces de police,
hein? Oui, tout à fait. Alors nous, on n'est pas décideurs en la matière, hein. C'est vraiment la mairie de Lourdes. Mais nous, on a une réelle expertise, évidemment, en termes de sécurité. Et on est là pour conseiller, pour orienter les choix du maire sur les lieux qui nous paraissent à nous les plus intéressants, bien sûr.
Et vous avez quelqu'un, je crois, de très compétent chez vous, M. Lapeyrade, qui s'occupe de tout ça.
Exactement. Mmh. Oui.
On disait, si on devait énumérer un peu les grandes missions, quand vous arrivez dans ce département, vous disiez, une des premières missions, c'est les violences intrafamiliales.
Bien sûr, oui.
Et en deuxième, vous mettez la délinquance de voie publique.
Il n'y a pas d'hiérarchisation, oui, pour moi. Il ne s'agit pas de faire, entre guillemets, de traiter des violences.
Plus, c'est le moins,
ouais. Voilà, c'est ça. Ça doit être fait conjointement. C'est deux choses extrêmement différentes, mais... on observe effectivement une hausse des cas de violence conjugale qui ne correspond pas forcément à une hausse des faits en tant que tels, mais plutôt à une libération de la parole. Voilà. Et c'est très bien que les femmes victimes osent de plus en plus franchir le pas de la porte d'un commissariat, parce qu'on est là pour prendre leur parole, pour les écouter et de faire en sorte que surtout ça s'arrête. Voilà. On est dans une logique d'efficacité et d'urgence. Et ça, on l'a bien à l'esprit. Donc, c'est déjà pas forcément évident de venir déposer plainte. Donc, ces dossiers-là, effectivement, sont traités en temps réel, en urgence et en coordination avec le parquet. Pour ce qui est de la délinquance de voie publique, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de la délinquance, effectivement, constituée par les vols avec violence, les vols à la roulotte, les dégradations, l'alcoolisation, les divers trafics, ou qui se déroulent sur la voie publique et du coup qui sont visibles de la population. Et ça, c'est évidemment une délinquance visible sur laquelle on est très présent qui occupe nos journées, bien sûr. Mmh.
Sur les violences intrafamiliales, et notamment les violences envers les femmes, vous avez les moyens nécessaires pour prévenir ces violences, par exemple les téléphones grave danger ou...
Bien sûr, ça ce sont des dispositifs qui ont été mis en place à l'échelon national. Nous, le message qu'on veut faire passer, c'est que une femme qui est victime de violence conjugale doit venir dans un commissariat déposer plainte. Voilà. Ces violences, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques. Aujourd'hui, il y a vraiment un accueil qui est mis en place avec des associations aussi qui prennent en compte ces situations-là, avec des aides qui peuvent être portées notamment du point de vue du logement. Mais assurément, la peur, elle doit changer de camp. Et il ne faut plus que les femmes aient d'appréhension à venir dans un commissariat.
Il y a eu des formations pour les agents, je crois.
Il y a eu des formations. Et encore une fois, il faut, ces dossiers-là sont traités de manière prioritaire.
C'est un métier qui se féminise, la police.
Qui se féminise ?
Oui.
Bien sûr. Et c'est très bien. C'est très bien. La police, c'est évidemment pas que du muscle, c'est également, sinon plus, de l'écoute, de l'empathie, de la négociation, du dialogue, de la communication, c'est tout ça. Donc, point de force physique qui tienne, quoi. Hein. Ce n'est plus peut-être ce métier d'homme qui était. présentée ainsi il y a quelques années. Les femmes ont évidemment toute leur place. Elles occupent des fonctions tout aussi importantes que les hommes. Vous noterez d'ailleurs que parmi les commissaires de police, on est quasiment à la parité, hein, 50-50. Donc c'est très bien comme ça.
Il y a eu une réforme récemment, ou qui est toujours en cours, de la police judiciaire au niveau de l'organisation au sein des commissariats. Comment ça se traduit à Tarbes-et-Lourdes ?
Alors, la réforme que vous évoquez est celle de la mise en place des directions départementales de la police nationale. Actuellement, dans certains départements, aujourd'hui, on travaillait par filière. Donc il y avait la filière sécurité publique, qui est donc les commissariats, la filière PJ, police judiciaire, mais également la filière police aux frontières, par exemple. Voilà. Donc avec à chaque fois un directeur à la tête de chacune de ces filières-là. Il était parfois fait le reproche que ces filières-là avaient du mal à se coordonner et à faire circuler l'information. Donc pour encore cette recherche d'amélioration, a été mis en place la notion de directeur départemental de la police nationale. Donc un directeur qui a l'ensemble de ces filières-là sous son autorité, sous son commandement. Voilà. Alors il se trouve que dans les Hautes-Pyrénées, il n'y a pas à proprement parler de service de police aux frontières ni de police judiciaire. Donc il n'y a que la sécurité publique qui soit représentée. Donc ça ne va pas forcément changer beaucoup les organigrammes de la direction des Hautes-Pyrénées, mais dans des agglomérations plus importantes, les fonctions hiérarchiques peuvent effectivement évoluer, avec aussi des mutualisations, donc des gains de personnel, notamment au niveau des missions de soutien et de support, voilà, l'état-major et la logistique et ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a eu de belles affaires, de belles prises, entre guillemets, depuis votre arrivée ?
Oh, disons, celle qui me vient en tête comme ça, c'est effectivement cette affaire d'alerte à la bombe au lycée Marie Curie à Tarbes la semaine dernière. Déjà, ça nous a occupé toute la journée parce qu'on a dû évacuer 1400 élèves à qui je dois rendre hommage parce que ça s'est fait dans un calme, une sérénité tout à fait marquante. Un excellent partenariat aussi avec l'éducation nationale, avec qui les échanges ont été vraiment excellents, avec la mairie, mais ça fait venir beaucoup de moyens. Les effectifs de police qui sont diligentés sur place, les effectifs des sapeurs-pompiers, les démineurs, les chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. Vous imaginez le coût que ça a représenté. Tout ça pour se rendre compte que c'était... le fait d'un canular de quelqu'un qui ne voulait pas aller en cours. Hein. Donc,
c'est un canular un peu étonnant parce qu'il tombe le même jour où il y a eu plusieurs alertes à la bombe en France en même temps dans d'autres lycées.
Mais oui,
Et donc, c'était, à Marie Curie, c'était un cas isolé. On ne sait pas, c'est en fait...
Alors, est-ce qu'il s'est inspiré de ce qui se faisait sur le reste du territoire, j'étais pas dans sa tête.
Oui, oui.
Mais effectivement, il y a eu certainement un effet de mimétisme, bien sûr.
Tant qu'on parle des lycées, on parle beaucoup de harcèlement scolaire et du rôle que vont être appelés à jouer les forces de police et de gendarmerie dans ces enquêtes-là.
Oui.
Vous avez déjà eu à traiter des cas de harcèlement scolaire ? On vous a déjà demandé d'intervenir ?
Alors depuis mon arrivée, non.
D'accord.
Depuis mon arrivée, non. Mais ça peut arriver n'importe quand. On est en lien étroit avec les chefs d'établissement et évidemment on est très sensibilisés par rapport à ça. Les chefs d'établissement ont également un rôle d'alerte à ce niveau-là et ils ont nos coordonnées directes et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous si jamais venaient à leur connaissance des cas de harcèlement scolaire, bien sûr.
Et le harcèlement se passe aussi souvent maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Vous, à votre échelle départementale, vous avez des équipes qui travaillent là-dessus, sur la délinquance qui peut se passer sur les réseaux, ou ça se fait à un autre niveau ?
Pas spécifiquement. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un phénomène nouveau, qu'on ne constatait pas évidemment il y a 20 ans. Ça ne s'arrête jamais. Ça poursuit évidemment la vie de la classe, de l'école, dans la sphère privée, intime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand les élèves ont quitté l'école. Et c'est ce qui fait effectivement le risque de ces réseaux sociaux. Là-dessus, je pense qu'il y a effectivement un gros travail de prévention, et ça, on le fait dans les écoles, vis-à-vis des principaux intéressés, mais également vis-à-vis des parents qui doivent être vigilants là-dessus, parce que ça peut conduire à des drames.
Merci beaucoup. On aurait, je crois, encore plein de questions à vous poser, parce que vous avez quand même, quelque part, un métier absolument fascinant, hein, celui de policier. Vous êtes donc le patron, hein, aujourd'hui. Vous êtes directeur départemental de la sécurité publique. Hein. Vous avez donc en charge les commissariats de Tarbes et de Lourdes. Merci beaucoup, hein, monsieur Vincent Gore, d'avoir accepté, monsieur le directeur, on dit monsieur le directeur, d'avoir accepté donc notre invitation. Je crois que c'était votre première émission radio. Merci,
oui,
d'avoir,
merci
d'avoir donc répondu à l'invitation de Radio Présence et du groupe La Dépêche. Et je rappelle pour les gens qui auraient pris cette émission en cours que vous avez 41 ans. Vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet. Vous avez pris vos fonctions, c'était au mois de septembre. Le 13 septembre, vous avez donc été installé officiellement dans vos fonctions. Et vous avez 3 enfants. Et on vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce département des Hautes-Pyrénées. J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être de se retrouver, parce que je sais que assez régulièrement vous donnez aussi les chiffres, hein, les chiffres avec les évolutions de la délinquance. Merci beaucoup, honnêtement, d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir un peu mieux parlé de votre métier.
Merci, merci.
Merci. Beaucoup.